Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauché.
On refait le monde ce soir à 19h19 sur RTL avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse. Bonsoir Roland Cayrol.
Bonsoir Marc-Olivier.
Le grand reporter au Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et Jean-Claude Dacier de Valeurs Actuelles. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Comme il y a 4 ans, les Inrecuptibles créent la polémique en publiant une grande interview de Bertrand Cantat. Il y présente son prochain album et revient sur cette nuit où ses coups ont tué Marie Trintignant. Vénus est un trou noir et ça a tendance à tout absorber, dit-il. Ça prend beaucoup de place, ça occupe chaque seconde, mais on finit par trouver un semblant de vie. Le suicide m'a obsédé pendant longtemps. Tout me semblait tellement dingue que ça paraissait la seule solution. Vivre était insupportable après ce qui s'était passé. Alors les Inrocs, qui décident donc de mettre en une Bertrand Cantat, vous choque-t-il ? Comme il choque Marlène Schiappa, ou pas, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
En effet, beaucoup s'offusquent. La ministre Marlène Schiappa tweet « Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing ? Au nom de l'état de droit, lui répond Vincent, et du principe qui veut qu'un condamné ayant exécuté sa peine revient dans la société. Jérôme est d'accord, qui remarque qu'on n'a pas banni les disques du pédophile Léo Ferré, ni les livres de l'antisémite Céline, ni interdit l'enseignement d'Althusser. Je crois que c'est moins l'œuvre de l'artiste que la promo qui pose problème, explique Sylvain. Il a une maison de 10, des gens qui bossent derrière, normal qu'il y ait une promo, estime Caspar. Matt lâche carrément stop aux leçons de morale, son interview est sobre, la promo de l'album restera confidentielle. Aucun manque de respect, assure-t-il. Nadia objecte qu'on ne prête pas une oreille compatissante à l'auteur d'un féminicide. Il y a 1000 autres métiers, 1000 autres vies à avoir quand on a tué, qui n'implique pas de badiner sur la musique, la scène ou les voyages. Alexandra aussi rejette ce positionnement en artiste maudit qui excuserait tout, et toujours ce relent de « on sait pas ce qui se passait entre eux dans l'intimité ». Intimité. Mais s'il avait été boulanger, défend encore Marianne, personne n'y aurait reproché de retourner faire du pain. Il aurait sans doute perdu des clients, mais c'est ce que fait Cantat, qu'on le veuille ou non. Et elle souligne que ces polémiques ne ramèneront pas sa victime, sont contraires à toute idée de justice telle que nous devons la concevoir. Nicolas, pour finir, cite Catherine Sellac, qui disait déjà en 2013 qu'ils vivent libres n'est pas le problème, qu'ils vivent dans la lumière est indécent.
Bon, allez, à qui donner la parole en premier? Qui veut défendre Bertrand Cantat, tiens?
Je ne suis pas candidat.
Ah bah dis donc,
Annie. Non, ce que l'on peut...
Non,
ah non, mais vous voulez pas le défendre non plus?
Non, il y a double buzz. Buzz pour le magazine, buzz pour Cantat. Donc objectif rempli. Le magazine plaide le droit à la rédemption. On a envie de le suivre, bien sûr. Mais moi, quand je vois le visage de Cantat à la une des Inrocs, je vois celui en filigrane de Marie Trintignant. Voilà, ça touche mes limites. La violence m'importe, m'impacte encore. Et même s'il a payé sa dette, il reste celui par qui la mort est arrivée. J'aurais préféré voir le visage de Marie Trintignant à la une des Inrocs parce qu'elle a sorti un joli film. Voilà, moi, je touche mes limites. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il y a une centaine de femmes, plus même, qui meurent chaque année sous les coups d'un homme dans des scènes de violence conjugale.
Alors, écoutez quand même l'avocat de Bertrand Cantat qui vous répond, Maître Antonin Lévy.
Bertrand Cantat fait partie de ces personnes qui, à la suite des actes terribles qu'ils ont pu commettre, les ont toujours assumés, les ont toujours reconnus, en ont accepté les conséquences. Il a purgé sa peine, il a été libéré par une décision de justice, et venir le lui reprocher à nouveau comme une forme de mort civile qui n'existe plus depuis plus de 2 siècles, il y a une forme de caractère terrible à la chose, où ce n'est pas du tout qu'on doit l'oublier, mais il a tout de même encore le droit d'exercer son art, il a encore le droit d'avoir une vie.
Ça ne vous convainc pas ?
Non, bien sûr qu'il a le droit, et il le fait. On a le droit aussi de réagir et d'être attristé.
Je comprends très bien qu'on soit révulsé par cette une. Elle ne me plaît pas non plus. Mais dans une démocratie libérale, il y a quelque chose qui est important, c'est la liberté d'expression. On oublie qu'elle n'est pas là pour protéger celui qui écoute ou celui qui regarde, mais celui qui parle. C'est ça le principe dans une démocratie libérale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Quelle est la tendance actuelle ? C'est de dire « je suis choqué ». Sans doute à juste titre. Et donc, je ne veux pas que ça se produise parce que je suis choqué, parce que ça heurte ma sensibilité personnelle. Mais une société démocratique, elle ne peut pas fonctionner ainsi. Et donc, le choix des Inrecuptibles, et Dieu sait que je les défends rarement, peut aussi se plaider. Je voudrais juste dire, il y a deux choses que j'ai relevées dans ce qu'a dit Marlène Schiappa. Assassin, elle a employé le mot assassin. C'est pas vrai, parce que juridiquement, assassin, ça a un sens précis. C'est un meurtre avec préméditation. C'est ça, en droit. Oui, d'accord, mais elle est membre du gouvernement, donc elle est censée quand même maîtriser le sens des mots qu'elle emploie. C'est pas un assassinat, c'est un homicide, c'est assez grave comme ça. Et ça, la justice lituanienne n'a pas retenu la préméditation. Bon, ensuite, ce n'est pas un membre du gouvernement d'ordonner à un hebdomadaire de choisir ses unes ou pas. Cela
elle
dit,
n'ordonne pas, elle réagit.
Non, mais, alors, cela dit, je voudrais ajouter, parce que ça, c'était sur le principe. Sur le fond, moi, ce que je recommanderais, je suis toujours révulsé quand je vois un assassin, enfin, meurtrier.
Ah, vous voyez
c'est vrai, non, mais on dit, bah oui, mais moi, je ne suis pas au gouvernement.
Ah, bah, donc vous pouvez dire
je ne suis pas au gouvernement. Je suis quand même. Je comprends d'autant plus que les gens soient heurtés que moi-même, quand je vois quelqu'un qui a purgé sa peine après un meurtre et qui intervient dans un journal, ça me révulse systématiquement. Donc, je comprends ces réactions. J'ajouterais simplement que je pense qu'il ne fallait pas faire ça une. C'est ce que, personnellement, le choix éditorial que j'aurais fait. Il fallait un traitement distancié que je ne sens pas toujours. Et il faut une large place au point de vue des proches de la victime que je n'ai pas vu ici.
Oui, mais enfin, on n'en parlerait pas ce soir.
Oui, moi, j'étais un amateur de Noir Désir. Je trouve que c'était un groupe absolument formidable. Et on avait déjà eu l'occasion, maintenant tout a basculé avec le meurtre de Marie Trintignant, on avait eu l'occasion de parler ici du moment où Quentin était revenu sur scène. Et ouais, j'avais dit que il a bien le droit d'aller chanter puisqu'il avait purgé sa peine. Là, je suis beaucoup plus choqué. Choqué pour les raisons qu'a dites Annie Lemoine. J'ai les mêmes limites qu'elle. Choqué parce que c'est les Inrock. Et que sur la même couverture, il y a Aurel Sand.
Ouais.
Aurel Sand, c'est quand même le rappeur qui a inventé, qui a dit « Je vais te Marie Trintignant » dans une chanson. Ça fait quand même beaucoup. Et moi, je me souviens quand même, dans les petites années qui ont suivi le meurtre, la façon dont une certaine partie de la gauche et des médias, comme pour excuser Quanta, s'en sont pris très vivement aux parents, au père et à la mère de Marie Trintignant, comme si c'était une espèce de moment de la lutte de classe, le meurtre de Marie Trintignant. Et voir qu'à nouveau, c'est dans les Inrock, qui est dirigé par un banquier d'affaires, actionnaire du Monde, mais qui, dans ses livres, prône la révolution sociale.
Mathieu Pigasse.
Je dois dire que ça me choque encore plus.
Oui, moi, je pense que c'est moins Benoît Quanta qui est Bertrand à mettre en cause, qu'en effet, comme l'a dit mon voisin, le choix éditorial qui a été fait à l'occasion de la publication de son dernier disque. Je pense que, honnêtement, en parler n'est pas interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont choquantes, qui peuvent déranger. Mais je suis un défenseur forcené de la liberté de la presse. Là, honnêtement, je pense que le propriétaire banquier, en effet, aurait dû regarder peut-être la une avec un petit peu plus d'attention. C'est quelque chose qui est dérangeant, qui est maladroit. C'est une faute éditoriale lourde. C'est comme ça. On n'est pas obligé d'acheter le journal.
Voilà, va vous répondre, vous n'êtes pas obligé d'acheter son journal.
Mais c'est bien ce que je vais faire.
Il va aussi dire que c'est pas lui, il a pas à intervenir dans ce sens. Il est propriétaire, mais il laisse son directeur officier, ou alors il démet le directeur.
Je crois pas une seconde à cette posture, à cette position de la part de Mathieu Pigasse.
Je rappelle que c'était la position de Pierre Berger au Monde, associé à Mathieu Pigasse et à Xavier Niel, qui ne se gênait pas publiquement pour condamner les articles du Monde, mais qui n'intervenait pas pour les faire modifier.
Ça donnait lieu d'ailleurs à des prises de position assez pittoresques sur Twitter de l'intéressé.
C'est vrai. Allez, un autre sujet dans un instant qui fait la une de l'actualité. Ce préfet qui prend la porte, victime expiatoire pour ce matin Laurent Wauquiez sur RTL et pour vous.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fauchon.
Et avec Jean-Claude Dacier, Guillaume Perrault, Roland Quérol et Annie Lemoine à 19h32 sur RTL. Même Gérard Collomb a trouvé ça brutal. Comme RTL vous le racontait, c'est Emmanuel Macron en personne qui a décidé de limoger le préfet du Rhône et son secrétaire général. Donc Henri-Michel Comet est remplacé par son homologue de PACA, Stéphane Bouillon. Il paye les dysfonctionnements qui ont amené à la libération du tueur de Marseille. Vous avez entendu ce matin sur RTL le patron de la région, Laurent Wauquiez, dénoncer une victime expiatoire. Leur sanction méritée ou fusible facile sur les réseaux sociaux, Benoît.
C'est très partagé. Enfin, une marque d'autorité, même si ça n'efface pas la tragédie, applaudit Robert. Faire sauter un fusible n'a jamais été une marque d'autorité. Bien au contraire, rétorque-t-il. Une fois de plus, c'est le fusible qui saute. Colomb va pouvoir continuer sa sieste en toute impunité, grince Didier. Tic trouve un peu injuste que le préfet ramasse tout. C'est juste une erreur administrative, dit-il. Surtout quand tes prisons et tes centres de rétention sont en surpopulation depuis 10 ans, à cause de l'État. Faut pas s'étonner, un 6G maire. Mais arrêtez, intervient Tib, il sera pas limogé, mais mis hors cadre ou muté. Fumisterie. Mais grave, le mec est responsable de la... deux morts et pour la peine, on va le muter dans une autre région. Boue la punition terrible, ironise John. Mais à droite, on n'en démord pas, Bruno Retailleau tweet. Limoger un préfet est une réponse trop facile. Nous attendons du ministre qu'il nous dise comment il va à l'avenir mener une politique qui permette que les délinquants multirécidivistes soient réellement sanctionnés et que les obligations de quitter le territoire soient exécutées. Ah oui, Twitter a doublé la longueur des tweets, hein, c'est plus long. L'API trouve pourtant que c'est déjà nouveau, cette application d'un principe de base. Le chef est responsable de la défaillance de ses services. Bravo, exactement. C'était vendredi après, mais il n'y a personne pour signer. Cette fois, l'avertissement est donné, conclut Anna.
Jean-Claude Dacier, vous trouvez ça sévère, vous ?
Écoutez, moi, je pense qu'après la tragédie de Marseille, que quelque chose, on va y revenir, qui est plein d'enseignements sur la réalité, la façon dont l'administration essaie de mettre en œuvre les lois qui sont votées pour lutter contre les djihadistes. Je pense que dans beaucoup de pays européens, c'est pas le préfet qui aurait sauté, c'est le ministre qui aurait présenté cette émission. Parce que quand même, c'est quoi la tragédie de Marseille ? Les parents, d'ailleurs, je vous le rappelle, ont refusé que le ministre ou ses collaborateurs soient présents aux obsèques, parce que eux ont bien compris ce qui s'est passé. On avait en France, et là ce n'est pas le seul, un individu qui depuis des années se baladait dans notre pays sans papier d'identité, en changeant à la convenance qui lui allait bien les identités qui pouvaient tromper la police. Là, 24 heures avant, il est dans les mains de la même police, avec un agent catégorie B.
On a bien raconté ça, Jean-Claude, on a bien raconté aussi que, que Emmanuel Macron s'engage à faire changer tout ça et à expulser les gens qui n'ont pas
je
à être
crains,
là,
oui, mais sur le sol. Justement, je crains d'abord que la préfecture de Marseille, des Bouches-du-Rhône, ne soit pas la seule dans cette situation. Ouais. Ce qui s'est passé est plus qu'un ratage de l'administration. Vous avez un fonctionnaire qui prétend qu'il n'y a pas de place dans les centres de rétention. Mmh. Il s'en libère dans l'après-midi. Personne ne bouge plus, on se débarrasse du client. Je pense que, encore une fois, c'est un fait divers d'une gravité. C'est un fait divers, c'est une tragédie qui montre à quel point, en réalité, l'administration ou n'a pas les moyens, ou n'a plus la volonté, ou est pris dans un espèce de fatras.
Et donc, ce n'est pas au préfet de payer.
Mais c'est sans doute pas au préfet de payer, mais il doit y avoir un responsable tout de même.
Non, mais c'est très
judicieux. Vous ne pouvez pas admettre que sur une affaire comme celle-là, il n'y ait pas de responsable circulé, il n'y a rien à voir.
Et bien justement, Jean-Claude, c'est une façon de dire au préfet, tenez vos préfectures et faites appliquer les lois. Et faites attention, soyez vigilants avant de défaire vos valises, parce que vous pourrez très bien repartir rapidement. Il était là depuis 6 mois.
C'est fait, c'est pour ça que j'approuve la décision.
Malheureusement, ce n'est pas une décision qui est de nature à alléger le chagrin des familles.
C'est leur chagrin avec ce qui s'est passé.
Est-ce que c'est vraiment la défaillance, c'est vraiment de tenir sa préfecture?
C'est le chef de service qui paye. Ou alors, à quoi ça sert d'être un responsable et un patron?
Il est responsable de ses services. Et ça dit à tous les autres préfets, faites attention, et ne soyez pas laxiste. Et effectivement, s'il avait été dans un centre de rétention ou dans un autre, parce qu'il y en a un qui était plein,
il nous explique depuis ce matin qu'il n'a pas été laxiste.
Ce qui s'est passé est inacceptable, Marco.
Qui dit le contraire, mais est-ce que c'est le préfet, est-ce que le préfet aurait pu faire autrement, c'est
écoutez,
ça la question.
Il est responsable de son administration. Je pense que dans beaucoup de pays européens,
qu'un responsable paye certainement, mais de là de le traiter de laxiste, je ne crois pas que ce soit le sujet.
Négligent un petit peu. En tout cas, ça veut dire resserrer un peu les boulons dans les services pour que la loi soit appliquée.
Je crois que ce soit pas ça le problème. Le véritable chiffre des reconductions à la frontière. Allez le voir.
Oui, non, mais ça c'est le sujet. Mais je ne crois pas qu'il était laxiste.
Mais zéro, mais rien. Je pense.
J'entendais à votre journal de 19h l'excellent porte-parole qui expliquait que le préfet n'était pas limogé puisqu'il restait préfet dans la fonction publique. D'ailleurs, le président de la République n'a pas la possibilité de démettre de ses fonctions, mais il a proprement été limogé. Le limogeage a été inventé par l'armée française du temps où on envoyait les officiers généraux dont on voulait se débarrasser à Limoges.
En 14.
Voilà. Et c'est un peu ce qui arrive à ce brave préfet. Moi, je suis absolument sidéré parce que Dacier parle en fonction de tout ce qu'il a appris depuis les événements de Marseille. Mais quand un fonctionnaire se met à libérer ce type, il ne sait pas les 7 pseudonymes qu'avait déjà utilisé ce petit voyou. C'est juste un petit voyou parmi d'autres qui vient de chipper une veste.
Il n'a pas de papier. C'est pas un gars parmi d'autres. Il n'a pas de papier. Il est en situation irrégulière et on le relâche.
Il
n'y a pas de responsable.
Il a chipé une veste sur une grande surface. On en relâche d'ailleurs tous les jours.
Écoutez quand même ce que dit Roland.
On en relâche tous les jours.
Ce qu'on lui reproche à ce moment-là, c'est d'avoir chapardé dans une grande surface.
Et on vient dire à cette administration, mais comment vous n'expulsez pas tous les gens qui volent des vestes dans les grands magasins. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Non, c'est pas
ça. C'est pas du tout ça, Roland.
Mais c'est ce qui s'est passé.
C'est
ce qui s'est passé.
Vous avez appris.
Vous avez appris. Vous aussi. Après, ce que c'était que cet individu, est-ce qu'il avait fait? Et après, vous dites, bah, ils avaient qu'à le savoir avant. Eh ben non, ils ne savaient pas avant.
C'est pas ça du tout.
Et moi, je dis que le fait de limoger ce préfet, c'est de la com pur et simple. Oui. C'est se dire bon. L'opinion
publique... Donc il
n'y
a pas de responsable, tout va bien, on
l'opinion
continue.
L'opinion publique a
non,
été
Non, c'est pas ce que dit le gouvernement Macron. Le gouvernement Macron dit qu'il veut expulser les gens qui ne doivent pas être sur le sol français.
Et comment ne le serait-elle
comment
pas,
ne pas l'être.
Et comment ne le serait-elle enfin. Pas Il faut donc lui donner quelque chose et on lui donne la tête.
C'est normal que le responsable paye
non,
la facture quand
il
même.
Il n'est en rien responsable.
On envoie un signal à son père.
Cela se
passe dans toutes les administrations de France et on ne peut pas faire comme si... En France, et ailleurs. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Dans beaucoup de pays,
qu'est-ce que c'est que cette espèce de demande de sévérité dans des gens que vous ne à propos de gens que vous ne connaissez pas
bah
et pour
rien.
Des faits que vous ne connaissez pas. C'est difficile d'administrer l'État. C'est difficile et c'est trop facile de limoger.
Tu habilles la réalité des faits.
Je n'habille pas la réalité des faits.
C'est vous qui
l'avez.
Il est en situation irrégulière.
Vous savez combien il y en a en France?
C'est indéniable. Combien il y en a? Justement, je ne sais pas combien il y en a.
Ah ben, c'est très difficile
donc
à compter puisqu'ils sont par parents.
Ah bon? Donc on les laisse. Allons-y, ne changeons rien.
Ce n'est pas ce que dit le gouvernement.
C'est ce que dit
au moins plusieurs dizaines de milliers, probablement. Plus de 100 000. Et donc, c'est très compliqué. Et la preuve, c'est que tous les présidents de la République, qui nous ont dit à l'avance, désormais, on va expulser les gens en situation irrégulière,
ah oui, ça, c'est sûr.
Dès qu'il arrive quelque chose, on n'a jamais pu c'est le sûr. Faire. Donc, bonne chance, Emmanuel Macron.
On y revient dans un instant avec Guillaume Perrault.
RTL Soir, jusqu'à 20h.
On refait le monde, avec Marc-Olivier Fauchet.
Et avec Annie Lemoine, Roland Quérol, Jean-Claude Dassier, vous, Guillaume Perrault, donc, la tête du préfet sur un plateau à l'opinion, vous en pensez quoi?
Alors, je partage...
Enfin, je l'ai présenté d'une façon un peu particulière.
Je partage tout à fait. Les analyses, je me retrouve dans ce qu'a dit Jean-Claude Dassier, donc je ne vais pas le répéter. Je voudrais développer un autre angle. Il y a 85% des expulsions de clandestins, d'après les chiffres officiels, qui n'aboutissent pas. 85% des clandestins, des expulsions de clandestins qui n'aboutissent pas. C'est absolument extravagant. Comment l'expliquer? Il y a la contrainte européenne qui est très forte. À la fois les directives et les décisions de justice françaises et européennes qui interprètent ces directives. Or, nos voisins, ils sont soumis au droit européen de la même manière.
Absolument.
Eh bien, l'Allemagne réussit à expulser bien davantage de clandestins en pourcentage, alors qu'ils sont tenus au respect des mêmes directives et de la même jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les Français interprètent de façon particulièrement rigide les obligations qui découlent de nos engagements européens. Et je vais vous donner un exemple qui me paraît totalement absurde. C'est une décision de la Cour de cassation de 2012 qui a considéré, qui a décidé que la police ne pouvait plus expulser un clandestin au seul motif du séjour irrégulier. Mmh. On a supprimé le délit de séjour irrégulier après
Roland,
cette décision de la Cour de cassation. Attendez, je finis juste, Marc-Olivier. Ce que je veux dire, c'est que le Parlement n'était pas obligé de s'incliner devant cette décision de la Cour de cassation. Il aurait bien, très bien pu dire, hiérarchie des normes, nous, la loi, le législateur, on est supérieur à la Cour de casse, on respecte pas cette décision et on continue avec le délit. Eh bien, ils l'ont supprimé. Eh bien, on n'aurait pas dû.
Ouais, tout ça est très bien, mais ça ne s'applique en rien. Au cas qui nous occupe.
Mais si,
il n'y a pas eu de demande d'expulsion de ce monsieur qui n'a donc pas été refusé. Donc ça n'a aucun rapport avec ce dont vous parlez là.
Un homme en situation irrégulière, vous devez le mettre dans un centre de rétention et vérifier d'où il vient, ce qu'il a fait.
Donc ça n'a rien à voir avec la jurisprudence. Donc ça n'a rien à voir avec la jurisprudence.
La procédure n'a même pas été lancée à cause de l'effet dit. À cause de l'effet dissuasif.
Il va aller au bout de votre argumentation, pour être honnête.
Donc
vous êtes sûr de ça, vous, la procédure n'a même pas été enclenchée parce qu'elle n'ira pas au but.
Ils
sont
dit que ce n'est
pas
prioritaire. Il aurait dû faire le papier.
Pas simplement. Et je pense qu'on s'habitue, on se dit voilà, de toute façon, les centres de rétention, c'est plein.
Il y a aussi le problème des places en centre de rétention, évidemment. Il y a le problème des laissez-passer consulaires. Il y a des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants et c'est un grand problème. Donc il y a le cumul.
mais on fait quoi?
C'est les problèmes sont sur la table depuis à peu près 10 ans.
Non, mais on les règle comment, mais selon vous, donc,
puisque... Je ne prétends pas que ça soit simple.
Ah, voilà. Mais ça vient de le dire aussi, parce qu'on a l'impression qu'on les fout dans un avion. Merci, au revoir.
Ok, Marc-Olivier, entre reconnaître que c'est complexe et puis s'accommoder de la situation.
Personne ne s'en accommode.
Ça pose pas de problème.
Bah si, mais il faut tout poser sur la table. C'est simplement ce que je dis. Roland, vous voulez...
Non, mais moi, je passais à M. Thiers et qu'on les fusille. Quoi. C'est toujours facile. C'est toujours facile quand
C'est votre facilité
rhétorique, Roland, qui est facile. Roland, c'est l'inverse qui est facile.
Vous nous renvoyez au Versailles de 1871.
C'est de s'en laver les mains.
Bien sûr. Ça, c'est du journalisme musclé.
Oui, oui, oui.
Je laisse passer un ange et je lance le sujet dans un instant chez les Républicains.
Tout va bien.
Au sens commun et un peu la patate chaude.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchet.
À 19h49 avec Guillaume Perrault, Roland Quérol, Annie Lemoine et Jean-Claude Dacier sur RTL. Laurent Wauquiez ne veut pas d'un plan à trois. Le candidat à la présidence des Républicains met en garde sens commun sur RTL. Il n'y a aucune alliance avec des élus du FN et tous ceux qui ne partagent pas cette ligne ne feront pas partie de mon équipe. S'il a le moins de passage à l'acte, ils n'auront pas leur place chez les Républicains. Hier, le président de l'émanation politique de la Manif pour tous se disait prêt à une plateforme politique avec l'ex-députée FN Marion Maréchal Le Pen. Alors les digues droite et extrême droite vont-elles finir par céder? Ça vous étonne la position de Laurent Wauquiez, Guillaume Perrault?
La position de Laurent Wauquiez, non, on ne m'étonne pas, mais je voudrais dire un mot de
Parce
sens
que lui-même, on l'a un peu accusé de flirter avec l'extrême droite.
Il a été très très attaqué par la gauche. Avec des arguments repris d'ailleurs.
Par la droite.
C'est ce que je me...
Peut-être plus par la droite que par la gauche d'ailleurs.
Oui, mais précisément. De fait, le fait que des gens de droite qui ne se présentent pas à la présidence de LR cautionnent des arguments venus de la gauche, les reprennent à leur compte à la virgule près, ne peut que servir Wauquiez. Parce que ça leur lui fait une publicité, peut-être mensongère, d'une image d'un homme droit dans ses bottes. Et l'électeur de droite, l'adhérent, à plus forte raison, de LR, ne supporterait pas d'avoir un chef qui paraît, comment dirais-je, rechercher une espèce d'adoubement médiatique et idéologique par des gens de gauche. Donc c'est pour lui une très bonne publicité. Je ne dis pas que c'est simple et agréable à vivre, provoquer. Je dis que c'est une excellente publicité, fondée ou pas, pour son élection à la tête de LR.
Oui, si beaucoup de gens à droite, dont en effet Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et quelques autres, considèrent que Wauquiez est un danger à la présidence des Républicains, parce qu'il serait très proche des positions du Front National...
Frédéric Lefebvre y va aussi beaucoup là-dessus.
Voilà. Sur le fond, il n'y a qu'à lire les déclarations de Laurent Wauquiez. Il est souvent... très proche du Front National sur la plupart des problèmes qui concernent la société française. Et on peut le comprendre, il estime, lui, que c'est là qu'il faut aller chercher désormais les électeurs qui manquent au Front National. Je ne peux pas l'approuver dans cette démarche, mais je comprends parfaitement que ça soit sa logique. Il est candidat et il va être élu à la présidence des Républicains. Et tout le monde lui dit, non seulement Bertrand et Pécresse, mais tous les autres, lui disent attention maintenant, avec l'image que tu as, très à droite de la droite, très musclée, il te faut maintenant montrer que tu es aussi un rassembleur. Mmh. Et il a commencé depuis 8 jours à essayer de montrer qu'il aimait tout le monde. Mmh. Il est même arrivé à faire croire que Mme Calmel c'était toujours jupéiste pour montrer qu'il en avait une à ses côtés. Voilà, il fait tout pour montrer qu'il n'a pas que des excités à ses côtés. Il est évident que c'est pain blanc pour lui de dire non, mais moi, si les gens de sens commun veulent s'allier avec Marion Maréchal Le Pen et avec qui que ce soit du Front National, attention, je n'en sais rien, je ne suis pas sûr qu'ils ont dit ça, il dit. Ouais, mais si par hasard c'est vraiment ça...
Il leur demande de clarifier leur position.
Voilà, si c'est vraiment ça qui clarifie, alors pas avec moi. Mais voilà, c'est très simple. Là encore, on est dans la communication politique. Il s'agit pour Wauquiez de montrer qu'au-delà de tout, jusqu'à son élection à la présidence des Républicains, il sera un homme de rassemblement.
Donc un positionnement de circonstance.
Oui, et il dit bien qu'il n'y aura pas et jamais d'accord avec le Front National. Alors ensuite, qu'il y ait une volonté d'aller siphonner comme Sarkozy l'a fait en 2007, 8, 10 ou 12% des voix du Front National dans un parti qui n'a plus de leader, ça me paraît être le béaba de la politique. C'est bien aussi pour ça qu'à droite, hélas, mais qu'aussi à gauche, voire de certains, j'imagine, milieux macroniens, on charge Wauquiez de tous les péchés politiciens possibles. Sens commun, c'est une maladie honteuse. Bon, sens commun...
C'est quoi? C'est 8 ou 10 000 adhérents. Ils sont.
C'est ceux qui ont organisé la manif de Fillon entre Trocadéro.
C'est ce qu'on dit.
Ah, bah non, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on a démontré. Non, c'est pas la même chose. C'est pas totalement la même chose.
Il y avait 20 000 personnes. Bon, bref.
Ah, bah ça lui a permis de maintenir sa candidature et donc de planter la droite à la présidentielle.
Les Macroniens s'en réjouissent. Donc, voilà, il n'y a pas. Bon, simplement, il reste pour Macron un petit problème. Tant qu'il n'aura comme opposant, encore une fois, qu'un Front National sans leader, et qu'un Mélenchon, dans l'excès, dans le discours, on l'a encore vu cet après-midi, il est tranquille. S'il était autorisé à faire plus de deux mandats, il pourrait légitimement espérer les faire. La droite, c'est quand même encore, Roland, 20% minimum d'un noyau dur. Ce qui me peine un peu quand on est libéral et de droite, c'est que les attaques, notamment de Jean-Louis Debré, qui n'en manque pas une...
Qui sera là demain avec Elisabeth Martichoux.
Qui est en train de nous expliquer qu'il y a deux droites irréconciliables comme à gauche. Le phénomène de décomposition n'est pas terminé à droite, hélas. Pour l'opposition de droite et de gauche, à laquelle je crois, on va voir comment, à la fin décembre, 17 ou 18 décembre, on verra comment Wauquiez sera élu s'il doit l'être, s'il est mal, ce qui est possible, avec les attaques qu'il subit venant d'un peu partout. La droite aura encore de soucis à se faire.
Oui, Laurent Wauquiez est en train de dessiner une frontière, peut-être poreuse d'ailleurs, sur sa droite, considérant sans doute que cette prise de position lui rapportera davantage qu'elle ne le pénalisera. Il n'y a aucun doute sur son positionnement aujourd'hui. Donc je pense que les électeurs du Front National qui voudraient traverser la route pourront le faire. Le chemin n'est pas très long pour le rejoindre. Donc voilà, il respirera mieux le 17 décembre. Il est en train patiemment de construire son image, empruntant à Sarkozy, empruntant à Chirac. C'est amusant de l'entendre d'ailleurs avec Elisabeth Partichoux, dans une construction ce matin.
Le tout, c'est de voir s'il est crédible quand il emprunte à tout le monde ou s'il ne joue pas faux. Quoi. C'est ça.
Il se construit, il y a du storytelling, il y a une ambition qui date d'il y a très longtemps et il veut essayer d'imposer son leadership à la tête de LR. Bon,
il est vrai qu'il y a une partie de l'animosité qui déclenche chez certains anciens sarkozystes, tient à sa personne et pas à ses idées, à sa personnalité, à son style, à ce qu'il est, le côté ambitieux, fébrile, hystérise un peu les reproches qui lui sont adressés. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir des Chiraciens qui, il y a 30 ans, avaient été traités de dérives fascisantes par la gauche et qui, maintenant, blanchis sous le harnois, adressent le même reproche à Wauquiez et ses
proches. Là, vous parlez de qui ?
C'est pour moi.
Vous parlez de qui ?
De Debré et de beaucoup d'autres. Enfin, je rappelle que c'est Chirac.
Chirac. Je me souviens.
C'est un grand classique.
Mais on termine avec vous, Roland.
Sous Chirac, il y a vraiment eu, pendant les périodes Chirac, des alliances avec le Front National,
des présidents de région. Jacques Blanc et autres,
On s'en souvient. Et ensuite, Chirac a changé de ligne et a dit qu'il n'y aurait plus d'alliance. Faisons pas comme si la référence à Chirac c'était mieux que Charles Quint en Espagne.
On s'est pas plaint à gauche qui a développé.
Non, mais c'est vrai qu'il faut rappeler ce petit point d'histoire politique.
J'en suis d'accord, mais on s'est pas plaint de la porosité à l'époque quand les voix de droite quittaient le RPR de l'époque pour aller au Front National. Ça n'a pas gêné la gauche à ce moment-là.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h et ensuite Jacques Pradel. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.